Je ne sais pas si vous connaissez la revue People. La revue People, c'est un magazine qui a été nommé une année en principe, en particulier l'année, ça a été le magazine de l'année. Et ce magazine, croyez-le ou non, a été lu par à peu près 47 millions de personnes. C'est bien du monde, ça. C'est le magazine avec le plus vaste auditoire parmi les magazines américains. Eh bien, ils ont fait un article, ils ont écrit un article, je me souviens plus exactement de quelle date, mais c'était écrit, et ça c'est un article sur une célébrité qui s'appelle Kel Mitchell, intitulé « Comment Kel Mitchell, qui jouait dans All That, a surmonté la drogue et les pensées suicidaires en trouvant la foi ». Et dedans, on a le témoignage de la conversion, finalement, à Jésus-Christ de cet artiste, de cette vedette. Présentement, il joue l'un des rôles principaux de l'émission Game Shakers. Il fait aussi des tournées comme comédien un peu partout et il fait des conférences sur la motivation. Il a même un site Internet qu'on peut aller voir et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un onglet sur son site Internet où il donne son témoignage, même, et un témoignage très clair. C'est vraiment touchant. Voici ce qu'il dit dans son témoignage. Il dit « J'ai traversé tellement de hauts et de bas dans ma vie », écrit-il. « Suicide, divorce, consommation de drogue et d'alcool, enlisement dans le péché, perte de proches à cause de la violence dans les gangs, dette, souffrance, douleur, orgueil, luxure, déchirement. Me sentant perdu et cherchant des réponses, j'ai vu, j'ai senti, je me suis laissé aller à toutes sortes de péchés et j'ai fait du mal aux autres. » Finalement, il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Et il raconte. Il dit, « J'ai essayé de m'en sortir par moi-même, mais ce dont j'avais besoin, c'est de me tourner vers Lui, » affirme l'acteur. « Dès que j'ai trouvé la lumière en Jésus-Christ, je savais que tout allait se résoudre. » Et depuis qu'il est venu au Seigneur, il dit avoir trouvé la paix. Et depuis, je vous dis, il n'est vraiment pas timide à partager l'Évangile. Et il lance des messages régulièrement. Et voici ce qu'il dit. Il lance un message aux gens qui l'écoutent ou qui l'entendent ou qui vont visiter son site. Il dit, « Laisse ton passé derrière toi, sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je l'ai fait et à présent, ma vie est belle. » Mes yeux se sont ouverts. Il continue en disant, « Je suis jeune, trop bien et sauvé. Si tu es prêt à admettre que tu as besoin de remettre les compteurs à zéro dans la vie, dans ta vie, le Dieu de la seconde chance n'attend que te l'accorder. » Ensuite, il leur donne quelques recommandations afin qu'ils puissent tenir ferme dans leur nouvelle marche avec Jésus-Christ. Il dit, « Faites-vous baptiser. Parlez à quelqu'un de votre nouvelle démarche dans la foi. » Passez du temps avec Dieu, dans la prière, lisez la parole de Dieu, ayez des temps de communion fraternelle avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ, et allez à l'église. Maintenant, le témoignage de Mitchell nous rappelle, comme tellement d'autres personnes vont nous le rappeler, que quoique plusieurs personnes disent qu'on est fait juste de poussière et de terre, en fait, nous sommes aussi faits du ciel. Nous lisons dans les Écritures saintes que nous avons été créés à l'image de Dieu et il y a une place dans notre cœur que seul Dieu peut occuper et tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas, on ne deviendra jamais tout ce que l'on peut devenir. Notre âme ne peut être satisfaite vraiment sans Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est Lui qui nous a créés, c'est notre Créateur. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Ce que notre âme cherche sans qu'on le réalise, c'est la soif de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'adoration. C'est ce que Jésus va dévoiler lors de l'une de ses rencontres avec une femme qu'il va faire cette rencontre avec une Samaritaine. Un jour, Jésus doit passer par la Samarie. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans cette rencontre, c'est que les Samaritains, les Juifs, ne se parlaient pas beaucoup, exceptionnellement de temps en temps ici et là, mais il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de mépris entre les Juifs et les Samaritains. On peut comprendre un petit peu aujourd'hui avec les Palestiniens, les Juifs et tout ça. Et quand tu visites Israël, tu vas voir certains Juifs parler à des Palestiniens. Mais on sait que le ton, il y a beaucoup d'agressivité selon les secteurs et tout ça. Et c'était comme ça à l'époque avec les Samaritains. Même si exceptionnellement ici et là, On pouvait voir des Juifs parler. Il y avait même des lois qui interdisaient, dans le fond, qui n'encourageaient pas les dialogues et les échanges et les communions, la communion avec des Samaritains. Donc, il y avait vraiment une grosse tension avec les Samaritains. Et Jésus fait par exprès pour passer à travers la Samarie. Et là, il va faire la rencontre d'une femme, une femme qui a beaucoup souffert au courant de sa vie. C'est la Samaritaine. Donc, moi, j'aimerais vous encourager à tourner dans ce passage de Jean où cette femme samaritaine va parler avec Jésus et la conversation va tourner tranquillement vers la question de l'adoration. D'ailleurs, on va voir l'adoration revenir à peu près une dizaine de fois, même dans ce passage. Alors, Jean, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 7, c'est un peu plus long, mais c'est une histoire, donc les histoires, hein, ça, c'est un petit peu plus long. Donc, ça vaut la peine de prendre à partir du verset 7 pour vraiment voir tout ce qui se passe, tout ce qui est en jeu dans cette rencontre. D'accord? Donc, vous êtes là, Jean chapitre 7, Jean chapitre 4, et on va commencer la lecture au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Eh bien, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Vous savez, le puits était de 150 pieds, c'est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Et là, c'est cynique un peu dans ses paroles. Hein? Vous voyez, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Est-ce que t'es... Là, il y a un petit peu une pointe d'humour ici, mais elle ne sait pas. Elle ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît pas Jésus-Christ. Alors, t'es qui? Eh bien, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif, que je n'aie plus à venir puiser l'eau ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as cinq maris, et l'homme avec qui tu es présentement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Eh bien, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ah, mon ami, moi, ça évoque un souvenir comme si c'était hier. Je me rappelle dans une classe, j'avais déjà suivi des cours à l'Université Concordia il y a plusieurs années, il y a à peu près 100 ans de ça, à l'Université de Concordia. Et puis, c'était un département juif, puis ils avaient une entente avec les rabbins de Jérusalem qui venaient pour un petit séjour de 3 mois ou 6 mois selon le cours qu'ils donnaient. Puis, c'était un cours sur le judaïsme. Et je me rappelle, le rabbin qui était là, qui venait de Jérusalem, un homme charmant, a dit ceci. Et il devait raconter les Juifs et les chrétiens la première rencontre. Alors là, il est obligé vraiment de lire le Nouveau Testament pour la première fois de sa vie. Mais tout le monde, un Juif, un rabbin de Jérusalem, qui commence à lire le Nouveau Testament. T'sais. Et pour la première fois, il a été exposé au Nouveau Testament. Et c'était fascinant, et même, j'étais dans la classe, et puis, mais on avait un bel échange. Il me posait même des questions des fois, parce qu'il savait que j'étais chrétien, mais un chrétien bizarre. Il me disait, toi, t'es chrétien, mais t'es pas comme les chrétiens que je connais. T'es comme différent. Et parce que lui, dans sa tête, chrétien, c'était une grande religion qui est bien connue, comme vous connaissez bien. Donc, mais de temps en temps, on avait des échanges dans la classe, c'était vraiment agréable. Et un jour, il a dit, il proposait, c'était sa thèse, et il voulait la défendre avec certains versets, tout ça, qu'il avait lu dans le Nouveau Testament. Tu sais, vous savez que Jésus cachait des fois, il disait, ah non, répands pas ça à personne, tout ça. Alors, le rabbin disait, finalement, dans la classe, puis c'était plein de juifs dans la classe, tu sais. Donc, il disait, ah, Jésus n'a vraiment jamais dit, dans le fond, qu'il était Messie. Comment vous expliquez-t-elle? Ah, là, c'était vraiment tous les Juifs tournaient. Parce que tous les Juifs avaient un Nouveau Testament, imaginez. Hein, il y avait des Gédéons qui avaient passé une semaine avant, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un cours qui allait arriver une semaine après. Les autres étaient découragés, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde. Là, tous les Juifs arrivaient et demandaient des Nouveaux Testaments, c'était à cause du cours, mais c'était vraiment intéressant. La classe, Dieu avait préparé ça dans son rendez-vous divin. Et là, regarde ce verset-là où Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je suis le Messie. Je suis celui dont tous les prophéties de l'Ancien Testament ont parlé. C'est moi. Et ça, c'est clair, hein? Je le suis, moi qui te parle. Un beau, magnifique passage, une belle confession où Jésus vraiment révèle qui il est. Notre âme a soif d'adorer. Jésus lui demande justement à boire et elle est surprise parce que vraiment il parle à cette femme samaritaine et tout ça. Et Jésus lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit, c'est le don de Dieu, il est en train de dire, je suis le don de Dieu. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il te l'aurait donné l'eau vive. Jésus a beaucoup de compassion pour cette femme. Parce que voyez-vous, Jésus a vu le besoin spirituel de cette femme. Et il va lui offrir, il va vraiment s'attarder, prendre du temps avec elle, alors que les gens ne s'attardaient pas. Au contraire, même elle, elle avait une certaine honte. Elle est allée à midi, alors qu'elle n'allait pas le midi en plein, où c'était la grande chaleur. Tu allais le matin très tôt, mais elle veut être seule. Elle ne veut pas être vue. Alors Jésus lui offre la vie éternelle, mais elle ne le comprend pas. Il lui offre le salut, elle ne le comprend pas. Alors Jésus réplique en disant, « Va chercher ton mari. » Alors il va faire un pas plus loin pour révéler qui il est. Et là, il va dévoiler des choses secrètes de sa vie, même son passé. Il est évident que cette femme a souffert. Elle a eu quelques maris. Elle a probablement été veuve. On sait, comme je vous ai dit l'autre jour, 40% des femmes en haut de 40 ans étaient veuves à cette époque. Divorcée, peut-être qu'elle n'était même pas capable d'avoir d'enfant non plus. Voyez-vous, la loi juive disait que si tu n'avais pas d'enfant dans 10 ans, tu pouvais te divorcer. Mais chose certaine, c'est que cette femme a beaucoup souffert et elle ne veut pas voir les gens. Elle veut être discrète et secrète. Elle arrive à midi. Mais Jésus connaît le plus grand besoin de cette femme, son besoin spirituel. Et il est la réponse. Il est le seul à pouvoir étancher cette soif qu'elle a, la soif de son cœur. Maintenant, le mot « adorer » va revenir une dizaine de fois dans ce passage. Ce passage parle de l'adoration. D'ailleurs, c'est la question de la femme qui va arriver plus loin. Maintenant, l'adoration est ce pourquoi nous avons été créés. C'est ce que notre être aspire au fond de nous, même si on ne le réalise pas, même si on n'en est pas tout à fait conscient. On a besoin d'adorer. C'est quoi l'adoration? Posons-nous la question. Mais l'adoration dit très simplement, il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament, plus de 171 versets, même d'autres mots hébreux dans l'Ancien Testament qui font référence à l'adoration. Mais il dit simplement, en quelques mots, voici ce que ça veut dire, c'est reconnaître la valeur suprême de Dieu. C'est admirer la grandeur, la majesté de Dieu. C'est reconnaître la valeur suprême de Dieu. Maintenant, on le fait régulièrement. Notre attitude change complètement lorsque tu commences à apprécier la valeur d'une chose ou d'une personne. Tu changes, ça te change, ça a un impact sur toi. Par exemple, une de ma tante te vient te voir, elle vient manger chez toi et tout ça, puis elle t'offre un cadeau. Elle dit, écoute, je veux te faire un cadeau. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Je veux te donner un collier. Et puis, c'est un collier que ma mère avait, puis sa mère avait, tout ça. Ça fait vraiment des années, tout ça. C'est un vieux collier, mais j'aimerais te le donner parce que je t'aime beaucoup. Alors, elle te donne le collier, puis tu regardes ça, puis c'est très vieillot. C'est vieillot pas mal. Puis, OK, bon, merci, t'es bien gentil, puis tout ça, puis t'es là, tu regardes le collier, hein, OK, bon. Fait que tu vas dans ta chambre, tu sais, tu regardes même pas où tu vas la mettre. Tu tires le premier tiroir, tiens, tu mets ça, tu mets le collier dans le tiroir, t'sais. Tu dis, écoute, ma petite fille, elle va aimer ça. Tu le dis pas, mais ta petite fille va bien aimer ça parce que, tu sais, tu t'aimes habiller. La petite fille, elle aime ça, s'habiller en princesse. Tu vas lui mettre le collier, ça va être super. Le temps passe. Là, à un moment donné, quelques mois passent, puis tu reçois la visite d'un de tes amis. Alors, un de tes amis vient chez vous et tu commences à jaser. Puis ça donne que le gars est un bijoutier, un professionnel. C'est un bijoutier. Puis là, quand on est en train de parler de ses projets à faire des pierres et tout ça. Puis, bon, OK. Et là, tout d'un coup, tu commences à lui dire, « Hey, sais-tu, en passant, t'es là, je veux pas trop te déranger avec ça. Je voulais même pas me déplacer pour aller voir la valeur de ça parce que ça n'a pas tellement de l'air, c'est pas tellement beau, tu sais. Mais ma tante m'a donné un collier, tu sais, j'aimerais ça te montrer ça. Ah, ben oui, pas de problème, écoute, on dit, j'aime ça, moi, de toute façon, regarde ça. Bon, OK, ça marche. Là, tu t'en vas dans ta chambre, tu cherches le collier, tu t'en souviens même plus où tu l'avais mis, tu regardes, tu sais, les calcetons, bas, puis tout ça. Ah, bon, OK, dans le fond du tiroir, tu regardes le collier, tu viens, bon, ça marche, moi, tu te reviens, tu descends en bas dans le sous-sol. Dans le salon, tu vas voir ton ami, puis tu lui donnes le collier. Viens, regarde ça, là, 5 minutes, là. Aïe, 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 t'es un peu... Non, mais tu réalises pas ce que tu as entre les mains, là, ici, là. Aïe, 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 ça a été construit, ça a été bâti. Regarde, vois-tu la façon que c'est fait, ça, ici, là? Ça, c'est au 17e siècle qu'on faisait ça, là. C'est une technique qui remonte au 17e siècle. Tu ne réalises pas ce que tu as entre les mains. Ce collier a été fait par des artisans du 17e siècle. Regarde. Puis là, il commence à te montrer chaque pierre et la façon, la technique que l'artisan a pris pour tenir chaque pierre. Et tranquillement, tu regardes chaque pierre. Là, tu commences à apprécier la beauté, la valeur du collier. Là, tu commences à être nerveux, 17e siècle, à Kachink, et là, t'es là, puis tu dis, OK, wow, c'est OK. Puis lui, là, non, mais tu réalises pas, là. Tu réalises pas ce que tu as entre les mains. Tu ne réalises pas ce que tu as ici dans ta maison. Tiens-toi bien. Ça vaut au-dessus de 100 000 $. Et pas juste ça, je vois aussi une petite erreur, là, une petite affaire, ça a corrigé, ça a brisé. Écoute, il faut que tu ailles en Suisse pour ça. Il y a juste un spécialiste dans le monde qui travaille ce type de bijoux qui remonte à si loin. Mais ça vaut la peine. Ça va coûter à peu près 10 000 $. Tu peux y aller, tu prends l'avion, puis tu t'en vas, puis tu regardes ça. Tu vas en Suisse, il va te réparer ça. Puis si tu répares ça, là, comme ce spécialiste va le faire, ton bijou qui vaut peut-être 150 000 va monter probablement, facilement, là, je suis très conservateur, au moins à 200 000 $. Là, tu donne-moi mon bijou. Donne-moi mon collier. Et est-ce que je peux te dire que là, tu vas marcher tranquillement, tu vas aller dans ta chambre, tu ne le lanceras pas dans ton tiroir, tu vas aller t'acheter un coffre-fort, tu vas le mettre dans ton coffre-fort, puis est-ce que je peux te dire que tu vas payer ton 10 000 $? Est-ce que 10 000 $, c'est rien à comparer de la valeur de ce que tu as entre les mains? Vois-tu? C'est ça, en fait, la différence. C'est à peu près comme si quelqu'un vient me voir et me dit, « Écoute, Normand, j'ai une paquet de gomme à te vendre. »« Ouais, pas de problème, ça a l'air vraiment bon, mais tu me vends ça. » Il dit 15 piastres. 15 piastres? Un paquet de gomme? Es-tu fou? Là, il y a un autre gars qui vient te voir avec une BM. Puis il dit, « Écoute, j'ai une BM à vendre, je veux m'en débarrasser, j'ai gagné quelque chose, la loterie, puis tout, puis j'ai une belle voiture, j'ai gagné un voyage. » Puis, il y a une voiture qui venait avec et tout ça, donc je vais m'en aller rester. OK? Comment tu vends ça? 15 piastres. Qu'est-ce qui a changé? La 15 piastres? La valeur du 15 piastres? C'est toujours le même 15 piastres. Ça n'a pas changé. Ça valait 15 piastres, là, ça vaut la 15 piastres. Il y a juste une chose qui a changé. C'est la valeur de l'objet devant toi. Vrai? C'est tout ce qui a changé. C'est drôle, tantôt, Le 10$ pour ton paquet de gomme, oh, c'est un gros sacrifice payer 10$ pour un paquet de gomme. Mais pour la BM, c'est rien 10$. Combien t'en veux 10$? Moi, t'en donner deux, même si tu veux. C'est rien. Pourquoi? À cause de la grandeur, la valeur de l'objet qui est devant toi. Vois-tu? Plus tu apprécies une chose ou une personne, moins que le prix à payer est gros. Vois-tu? C'est ça l'adoration, et encore même plus loin. Parce que l'adoration, ce n'est pas juste de voir la valeur supérieure de Dieu, c'est de voir en Dieu l'ultime, suprême valeur. Et à mesure qu'on, et c'est ce qu'on voit chez la Samaritaine, et cet échange avec la Samaritaine et Jésus, plus qu'elle va découvrir la grandeur de ce qui se trouve présentement au centre de sa vie, qui est Jésus-Christ, à un pied ou deux d'elle, plus que son cœur va commencer à changer. Et on va la voir changer du tout au tout. Si tantôt elle avait honte et se cache, à la fin, elle part à courir et elle va voir la foule, va voir la ville, témoigne à tout le monde puis emmène tout le monde au pied de Jésus. Elle va changer complètement. Pourquoi? Parce qu'à mesure que nous sommes exposés à la grandeur, à la majesté de Dieu, plus notre cœur est en admiration, et c'est ça l'adoration. Vois-tu? C'est ça l'adoration. C'est que ton cœur va être de plus en plus touché et émerveillé par la beauté, la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu. Et ton cœur sera en admiration. Et ça va avoir un impact sur toi, ça va avoir un impact sur ton attitude, ça va changer ton attitude. Lorsque Dieu avait une mission difficile à confier à son prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'était pour être une mission très difficile. Aucun fruit, il n'y a pas personne qui va écouter le prophète. C'est une mission dure, les gens auront le cœur dur. Qu'est-ce que Dieu fait d'abord et avant tout? Avant de lui confier sa mission à Ésaïe, il va lui donner une vision de sa gloire. Ésaïe, dans le temple, va voir Dieu comme il ne l'a jamais vu auparavant. Il sera ébloui devant la grandeur de Dieu. Ésaïe voit le Seigneur qui était assis sur un trône élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des anges se tenaient devant lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Imaginez Ésaïe qui voit ça. Et les anges disent, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Et là, tout d'un coup, dans le temple où se trouvait Ésaïe, les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait dans le temple, et le temple fut rempli de fumée. La vision de la majesté, de la gloire de Dieu a écrasé Ésaïe. Il s'est écrasé. Et là, Dieu lui lance un appel. Aussitôt après cette vision extraordinaire de Dieu, Dieu dit, « Voici, j'ai une mission, qui je vais envoyer? » Tout de suite, Ésaïe se lève, « Envoie-moi, Seigneur. » Après une telle vision de Dieu, après avoir compris qui est Dieu, comme il ne l'avait peut-être jamais vu auparavant, cette grandeur de Dieu, Ésaïe est prêt à payer le prix même de sa vie. Et c'est une mission qui était pour être très difficile, où les gens seraient totalement fermés. Mais il était prêt à payer le prix. C'est rien payer le prix à cause de la grandeur de Dieu. Vois-tu? Tout est là. C'est là. C'est là la différence. Où trouve-t-il le courage, même au risque de sa vie? Et il dit, en fond, envoie-moi, Seigneur, même si je meurs, parce que même ma vie n'est rien à comparer de toi. Si j'ai toi avec moi, de mon côté, c'est tout ce qui compte. Alors, si tu as besoin de courage, si tu t'inquiètes pour des choses, toutes sortes de choses, tout ce que tu as besoin, c'est de retourner à nouveau dans les Écritures et voir la grandeur de Dieu, sa majesté, la grandeur de son amour pour toi. Tu sais, il y a une chose qui est vraiment difficile, et parfois au bureau, ça va arriver. Des fois, tu te fais critiquer, soit par ton employeur, ou d'autres collègues de travail. Puis il y a du mépris, des fois, et tout ça. Puis on va te critiquer, on va te descendre. Puis c'est vraiment décourageant. Et des fois, on peut se laisser abattre par ça, se décourager. Mais vous savez quoi? Rappelle-toi comment Dieu t'aime, à quel point que Dieu t'aime. Pourquoi se laisser abattre par la critique? Adore Dieu, commence à adorer Dieu, expose-toi à sa révélation. Et tu vas voir que ton cœur va être rempli tout d'un coup d'une joie qui est indescriptible, qui est inexplicable devant la grandeur de sa bonté. Quand tu adores Dieu, la réalité de l'amour de Dieu pour toi devient beaucoup plus réelle que n'importe quelle critique qu'on peut te faire. La logique du ciel est tellement différente. Regardez bien la logique du ciel. On voit cela dans Romains 8. Romains 8 qui dit, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Voyez-vous la logique du ciel? Ça, c'est très important, c'est majeur, mes chers amis, que l'on réalise ça, que l'on s'accroche à ce passage-là, apprenez-le par cœur, même s'il faut, en 2016. Voici la logique du ciel. Dieu n'aurait pas pu faire davantage pour prouver sa détermination à répandre sur toi l'extraordinaire richesse de sa grâce et de sa bonté que d'offrir son Fils. Il ne pouvait pas en faire davantage. Il ne pouvait pas aller plus loin. C'est le maximum auquel il pouvait aller pour te prouver qu'il t'aime. L'impossible a déjà été accompli. Le don du Fils de Dieu, condamné pour effacer notre péché et nous acquérir la justice. Ça, c'est la logique du ciel. Rien, absolument rien, ne peut empêcher Dieu de nous donner donc tout avec lui. S'il nous a donné son Fils, s'il est allé jusque-là, et ça, c'est la logique du ciel, s'il est allé jusque-là, le reste vient avec. Si tu as le Seigneur, tu as tout. Si tu vois jusqu'où il est allé pour te prouver à quel point il t'aime. Maintenant, John Flavel, c'est un puritain qui a existé il y a bien longtemps, commente ce passage dans Romains 8, et voici ce qu'il dit. Il explique cette logique. Il dit, « Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnerait-il pas aussi toute chose avec lui? Comment pourrait-on imaginer qu'après cela, Dieu refuse des bénédictions spirituelles ou temporelles à ses enfants? Comment ne pourrait-il pas les appeler efficacement, les justifier gratuitement, les sanctifier parfaitement et les glorifier éternellement? Comment pourrait-il ne pas les revêtir, les nourrir, les protéger, les délivrer? Assurément, s'il n'a pas voulu épargner à son propre Fils un seul coup, une seule larme, un seul gémissement, un seul soupir, un seul motif de douleur, on ne peut imaginer un instant qu'il puisse un jour, après cela, priver ou refuser à ses enfants, pour qui tout cela a été enduré, la moindre miséricorde, la moindre consolation, le moindre privilège, l'ordre spirituel temporel, qu'il soit bon pour eux. Voyez-vous la logique? Si Dieu est allé jusque-là pour prouver son amour envers nous, en ce qu'il a donné son propre Fils, comment le reste ne viendra-t-il pas avec? Voyons. Ce que vous et moi nous avons besoin, c'est de nous saisir de cette logique du ciel. Comme Dieu n'a épargné aucune souffrance à son Fils pour nous sauver, il ne s'épargnera donc aucun effort dans sa toute-puissance pour nous donner tout ce que nous avons besoin, à jamais. Et ça, c'est la logique du ciel. Crois-le, répète-le, apprends-le par cœur, fais un cantique avec ça, chante-le, mais apprends-le par cœur. Quand tu commences à douter, quand tu commences à t'écraser, te décourager, rappelle-toi la logique du ciel, jusqu'où Dieu est allé pour toi. On peut compter là-dessus. Les choses auxquelles on s'accroche, qui nous semblent si importantes, qui semblent gros et qu'on a tellement peur de perdre, ces choses sont si petites à comparer de la majesté et de la grandeur de Dieu. Et la façon de grandir, c'est en adorant. La façon de te sortir de l'inquiétude, de te sortir du découragement, c'est en adorant. Adore, commence à adorer. Commence à reconnaître la bonté, la grâce de Dieu. Commence à le louer et tu verras tranquillement ton cœur complètement changer et avoir un cœur plein de joie alors que tu es en train d'adorer ton Dieu. La façon de grandir, c'est en adorant. L'adoration est donc reconnaître la valeur suprême de Dieu. D'ailleurs, c'est le plus grand commandement. Lorsqu'un homme est venu voir Jésus et lui a demandé, quel est le plus grand commandement? C'est pas pour rien que ça venait d'un scribe et d'un chef religieux, cette question-là. Les Juifs ont bâti tellement de commandements puis de règlements, c'est fou, là, des milliers de règles. Ça, c'est en s'en perdre, là. Tu sais, c'est comme mon ami. Ils se sont pas juste appuyés sur l'Ancien Testament, ils ont bâti tout un système très complexe de lois, de commandements. Tu sais, tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça. Et là, alors là, il y a un chef religieux qui s'en va voir Jésus. Dans le fond, c'était pour le piéger, puis il lui demande la question. Il dit, c'est quoi le commandement le plus important, c'est lequel? Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, et c'est le plus grand. Parce qu'en fait, vois-tu, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est ça l'adoration, tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta volonté. Le reste va suivre, l'obéissance va suivre, tu vas vouloir lui plaire, et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est notre réponse à la nature et aux œuvres de Dieu. On lui rend gloire, honneur, on veut lui obéir, on veut le suivre, on est en admiration devant le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul digne, il est grand, il est bon. On veut célébrer sa gloire. Alors voilà l'adoration. Pourquoi on adore? Eh bien, verset 23, Jésus dit ceci, il dit, « Mais l'heure vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Alors, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Il veut notre adoration, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Le but ultime de Dieu est de se glorifier. Toute la Bible en parle, tout ce qu'accomplit Dieu poursuit ce but. À chaque étape même de la création du salut, quand tu regardes l'histoire du salut, l'histoire est rédemptrice à travers les anges. Tout conduit vers la gloire de Dieu, magnifier sa gloire. Tout ce qu'il opère pour notre salut sert à magnifier la gloire de sa grâce. Alors, adorer Dieu fait une autre chose aussi. Ça place les autres choses à la bonne place. Louer Dieu nous rend plus joyeux, plus satisfaits, nous remplit vraiment de bonheur. Montre-moi quelqu'un qui adore Dieu. Montre-moi quelqu'un qui adore Dieu, puis moi je vais te montrer quelqu'un qui est joyeux. Quelqu'un qui aime la vie, malgré les défis et les difficultés. Mais oui, il y a des passes, des saisons dans notre vie où on va souffrir, évidemment. Mais montre-moi quelqu'un qui aime le Seigneur, puis moi je vais te montrer quelqu'un qui est joyeux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion-là dans les airs qu'on pense que des gens qui sont très spirituels et consacrés sont plates. Ah, tu sais, comme, fais attention quand tu vas parler à lui. Ah, lui, il aime bien le Seigneur, il est bien consacré, mais quand tu vas lui parler ce soir, là, fais attention à ce que tu vas dire. Il va peut-être te reprendre avec un verset, tu sais. Fais attention, tu vas peut-être faire des erreurs, tout ça. Moi, je me rappelle il y a plusieurs années dans une de mes églises où j'étais à Laval. Tu sais, comme il y a des gens qui pensent que c'est pas spirituel de faire des blagues et tout ça. C'est pas spirituel de faire des blagues, là. Ah non, une personne spirituelle qui aime Dieu ne fait pas de blagues. Elle n'a pas de sens de l'humour. Il est plate, il est toujours sérieux. Il prie tout le temps, il lit toujours sa Bible, puis il est vraiment marabout tout le temps. Maintenant, c'est vrai quelque part que plus que tu te consacres au Seigneur, plus tu commences à avoir la vision du monde, certainement il y a un fardeau sur ton cœur. Comme Paul, il dit, des fois même il priait, il pleurait même la nuit. Il y a cette compassion des âmes perdues, etc. Absolument. Mais tu vas voir les mêmes personnes, dans la vie de tous les jours, c'est des gens super joyeux. C'est incroyable. Tu regardes à travers l'histoire et ceux qui ont connu ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont allés en mission à l'autre bout du monde, etc., les gens qu'ils ont connus, et tous disent que c'était des gens super agréables, le fun à être. Tu voulais être avec ces gens-là. Moi, je me rappelle il y a plusieurs années, dont je vous parlais tout à l'heure, je vais finir mon histoire avec Laval, c'était une personne qui, lui, dans sa tête, dans sa conception, c'est que fallait pas rire, c'était pas spirituel, fallait pas faire de blagues, puis on ne faut surtout pas rire. Puis vous savez, il y a un passage dans Éphésiens 5, 4, qui dit, faites attention, etc., là, qu'est-ce que vous allez dire, puis ça. Puis ça parle des genres de blagues, mais ça parle des blagues sexuelles, tout ça, dans le contexte, puis il y a tout un contexte là-dedans. Puis faire attention à notre langage, tout ça, on veut pas quand même être... Mais ça ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de l'humour. Mais lui, il avait compris dans sa tête que pour être spirituel, il ne faut pas que tu fasses de l'humour. Donc, à chaque fois qu'on faisait une blague, on était dans une réunion de prière, à chaque fois qu'on faisait une blague, tout ça, Éphésiens 5-4. Éphésiens 5-4. Ah, ouais, mais c'est... OK, on va continuer, tout ça. Une demi-heure après, tu es là, tu es dans la cuisine, en train de manger des collations, tout ça, tu fais une blague. Éphésiens 5-4. il passait son temps à nous corriger avec Éphésiens 5:4. Il comprenait même pas le verset, Éphésiens 5:4. Il comprenait pas ce que ça disait du tout dans le passage. C'est pas ça. Personne spirituelle. D'ailleurs, quand tu vois des gens spirituels, d'ailleurs, monsieur Alexandrien n'est pas ici, là. Je vais me donner un petit droit de l'imiter. Tu regardes monsieur Alexandrien, tu lui parles monsieur Alexandrien, tu lui dis, monsieur Alexandrien, moi, ça me frappe de voir cet homme-là, qui en a vu pas mal de toutes les couleurs. Il me dit, souvent, on lui demande comment ça va, monsieur Alexandrien.
J'aime la vie.
Tu regardes monsieur Alexandrien, c'est un gars qui aime la vie. Il dit, moi, normalement, j'ai pas hâte de mourir. C'est sûr, à quelque part, t'as une joie d'ailleurs de trouver ton sauveur, tout ça, absolument. Mais moi, il me disait, normalement, moi, j'ai pas hâte de mourir. J'aime la vie. Parle-moi de ça. Quelqu'un de spirituel, de consacré. Puis tu regardes les gens. Et moi, j'ai connu à travers les années des gens, des femmes de Dieu, puis des hommes de Dieu. J'ai connu des monsieur Gazdic, monsieur Héron. Et monsieur Héron, les enfants couraient après monsieur Héron. Il était de bonne humeur, les enfants l'aimaient. Pensez-vous, regarde même Jésus. Regardez les enfants, comment les enfants couraient vers Jésus. Pensez-vous que quelqu'un qui a l'air bête puis marabout serait attiré, un enfant là, serait attiré à quelqu'un qui a l'air bête puis qui est marabout? Absolument pas. Même au contraire, s'il y a quelqu'un qui devrait être super joyeux, c'est qui? C'est les chrétiens, les amis. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin? Où êtes-vous ce matin, sentier? Est-ce que vous êtes joyeux? C'est ça. Parce que plus que tu adores Dieu, plus que tu vois sa grandeur et sa majesté, plus que tu commences à l'apprécier, tout d'un coup, dans ton cœur, tu t'aperçois que ton cœur commence à se remplir de joie. C'est une joie indescriptible, et difficile à expliquer. Et oui, il y a les défis de la vie, il y a le péché, puis tout ça. Et absolument, des fois, il y a des moments tellement décourageants. Absolument. On parle de la santé, tout ça, ça nous arrive. Et oui, il y a des moments de tristesse. Mais en même temps, il y a cette joie profonde dans le cœur qui est là, une tranquillité de savoir, de connaître que, écoute, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Hein? À quelque part, Dieu, quel dernier mot. Il n'arrivera absolument rien dans ma vie que lui n'aura pas décidé. Quelle assurance! Quelqu'un pose la question, Dieu vous a-t-il créé pour sa gloire ou pour sa joie? Ou pour votre joie? Dieu vous a-t-il créé pour sa gloire ou pour votre joie ou votre bonheur? Et John Piper répond à cette question-là, puis il dit, écoutez, c'est dangereux de séparer les deux. Tu ne peux pas enlever un sans enlever l'autre. Parce qu'il dit, Dieu vous a créé pour que vous passiez l'éternité à le glorifier en vous réjouissant. Parce qu'il est là le vrai bonheur. Dieu vous a créé pour que vous passiez l'éternité à le glorifier en vous réjouissant en lui au siècle des siècles. Et c'est ça qu'on va faire, vous savez, dans l'éternité. On va se réjouir, on va prendre plaisir en Dieu. On va avoir du fun. On va avoir du fun. Dans son livre, Au risque d'être heureux, Piper dit, Dieu est non seulement glorifié par la manifestation visible de sa gloire, mais par la joie qu'elle suscite. Dieu est glorifié de voir ses enfants dans la joie, de prendre plaisir en lui, à le découvrir. Dieu est glorifié par ça. Si nous ne nous délectons pas de Dieu, nous ne le glorifions pas comme il se doit. Et Piper conclut avec cette devise, il est rendu connu par cette devise, il dit, plus notre satisfaction en Dieu est grande, plus on prend plaisir en Dieu, plus notre satisfaction est grande, plus il est glorifié en nous. Si Dieu cherche notre adoration, c'est pas parce qu'il en a besoin, mais nous, on en a besoin. Prendre plaisir en Dieu, c'est ça le bonheur du chrétien. C'est la meilleure nouvelle au monde. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le désir de Dieu d'être glorifié et notre désir d'être satisfait, d'être heureux. Adorer Dieu, c'est se réveiller au vrai monde. Tu perds pas, tu gagnes. Le monde comme Dieu l'a conçu, avec sa vision du monde. adorer dans cette perspective, c'est grandir dans le fond. C'est vieillir, c'est passer à la table du roi. Comment on fait ça? Comment on adore? Il y a toutes sortes de gens qui vont dire toutes sortes de choses sur l'adoration aujourd'hui. Il y a des gens à qui on va parler puis vont dire, « Ah, moi j'adore Dieu quand je vais dans la nature. » Je regarde la nature puis je regarde tout ça puis il me semble mon cœur se remplit d'adoration et tout ça. Et dans un sens, absolument, la Bible dit bien dans les psaumes que l'étendue manifeste la gloire de Dieu. À quelque part, la nature, c'est son tableau, c'est sa signature, ça parle de la grandeur de Dieu, absolument. Mais tu ne peux pas le connaître intimement juste à regarder la nature. On s'entend. C'est à peu près comme moi, si je regarde une voiture Ford, j'ai beau ouvrir le capot, j'ai beau être en admiration devant le moteur et toute sa technologie, je connais pas Henry Ford. On s'entend? Voir son œuvre, ben ça me donne pas plus de connaissance de l'individu. Je rentre pas chez eux, je connais pas intimement, j'ai pas de communion intime avec lui. Donc la nature est très limitée dans ce qu'elle peut faire. Et c'est le point d'ailleurs, c'est la question de cette femme, cette Samaritaine qui va poser, elle va poser à Jésus. Elle va poser une question qui est très importante. Comment on fait pour adorer? Comment on adore Dieu? C'est quoi la vraie façon d'adorer Dieu? Et ça c'est la question qu'elle va poser à Jésus-Christ. Voici ce qu'elle dit au verset 20. Elle dit, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous autres, vous dites, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » En d'autres mots, c'est le temple de Jérusalem. Voyez-vous, il y avait deux temples. Il y avait le temple de Jérusalem, qui était celui qui était cachère, dans le fond. Dieu avait demandé dans l'Ancien Testament qu'il y ait un temple, c'était là, à Jérusalem, et c'est là qu'il fallait se déplacer pour aller adorer Dieu, surtout dans les fêtes juives annuelles. Mais les Samaritains, justement, ont fait leur tête, ils ont bâti un temple sur le mont Garizim, et c'est là qu'ils adoraient, puis ils avaient une perspective différente de la loi et tout ça. Et on n'entrera pas dans tout ça, cette différence entre les deux peuples, mais eux autres disaient, ben non, pour nous autres, c'est bien mieux de l'adorer. Nous autres, on pense que la façon d'adorer Dieu, c'est vraiment au mont Garizim, c'est là, à ce temple-là. Donc la question de la femme, c'est quoi? C'est qui a raison? T'es prophète, je viens de voir tes prophètes, tu connais ma vie privée, tout ça, je vois bien que t'es branché dans le ciel, il y a quelque chose, t'as une force surnaturelle de connaître ma vie privée, sur mes mariages et tout ça passé. Donc, je te pose la question, comment faut-il adorer? Elle aurait pu poser un paquet de questions, mais elle pose la question, c'est quoi la vraie façon d'adorer? Parce que, vois-tu, ça, c'est la question la plus importante qui soit. C'est la vraie question, en fond. Elle pose la question. Et là, Jésus va répondre. Femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce que nous connaissons, les Juifs. On a toutes les Écritures de l'Ancien Testament, pas les Samaritains. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, littéralement dans l'original, ça dit, l'heure vient, et maintenant, là, c'est là. L'heure vient, et là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Mais Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Maintenant, sa question, c'est bien simple, c'est à quel temple faut-il aller pour vraiment adorer Dieu, l'adoration qui va plaire à Dieu, c'est quoi? Quel temple faut-il aller? Mont Garizim ou à Jérusalem? Maintenant, qu'est-ce que Jésus va répondre? Vraiment intéressant sa réponse. C'est un Juif, donc normalement, il aurait dû répondre, bien, c'est à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Non? D'autres diront, bien, tu peux adorer le Seigneur n'importe où, parce qu'après tout, Dieu est omniprésent, Dieu est partout, tu peux l'adorer en esprit, tout ça, tu peux n'importe où, dans ta chambre, n'importe où. Alors, les gens pensent que c'est ça la bonne réponse. Non, Jésus ne dit pas ça. Ce n'est pas la bonne adoration. Jésus va dire ceci. Il donne sa réponse. Regardez bien ce qu'il dit. Voici ce que Jésus est en train de lui dire. Tu n'adores pas à ce temple, ni à l'autre temple. Tu adores à travers moi. En d'autres mots, l'adoration n'a pas besoin de building, pas besoin de système de sacrifice ou même de prêtre. Mais a besoin de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et ça, c'est la réponse de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus dit au verset 23, l'heure vient. quand on retrouve cette expression-là sur les lèvres de Jésus-Christ, dans l'Évangile de Jean, ça fait référence à sa mort. Jésus est en train de dire, par ma mort, vous pourrez vraiment adorer le Père, et c'est le genre d'adorateur que le Père recherche. C'est l'adorateur que le Père recherche. Il est en train de dire, lorsque je vais mourir, la façon d'adorer Dieu ne sera plus jamais la même. Ça va changer pour toujours. Et c'est ce qui est arrivé en passant lorsque Jésus a été offert en sacrifice sur la croix. Le voile dans le temple a été déchiré d'un bout à l'autre. Ce voile qui était une porte fermée qui empêchait les gens de l'extérieur à entrer dans la présence même de Dieu, le lieu qu'on appelait le très saint. Seulement une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer. Puis laissez-moi vous dire, il sortait vite parce qu'il avait peur de mourir là. Et là, lorsque Jésus s'est offert à la croix, le voile s'est déchiré d'un bout à l'autre, parce qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons maintenant accès à la présence même de Dieu. Nous pouvons maintenant adorer Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, tu as toujours besoin d'un temple, mais le temple, c'est Christ. En d'autres mots, le magnifique temple à Jérusalem n'était que l'ombre de la réalité qui allait venir en la personne de Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. La seule adoration que le Père recherche. C'est très exclusif, ça, mes chers amis. Hein? Ça ne donne pas beaucoup d'options, là. Ça ne laisse pas beaucoup d'autres méthodes d'adorer le Seigneur. Il dit la seule adoration que le Père recherche et celle qui sera acceptable à ses yeux est celle qui est offerte au nom de Jésus grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire celle qui est offerte sur la base de la mort et la résurrection de Christ. C'est cette adoration qui est faite en esprit et en vérité. Jésus le dit, c'est moi, verset Jean 14, 6, il dit, c'est moi qui ai le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes souillés par notre péché, indignes de la présence de Dieu. Notre adoration ne dépasse pas le mur. Mais grâce à Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et être en communion avec lui. Jésus s'est offert en sacrifice pour mes péchés. Et il a réglé le péché. Il a pris ma culpabilité sur ses épaules. Il a réglé cette animosité, ce mur qui me séparait d'avec Dieu, il a réglé ça à la croix. Nous avons maintenant accès à Dieu. Et ça, ce sont les adorateurs que le Père cherche. Les vrais adorateurs sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont ses enfants, font partie de sa famille, et ils ont son esprit. Regardez bien ce que dit 2 Corinthiens 3, 16. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mes chers amis, à mesure que tu t'exposes à la révélation de Dieu, tu vas commencer à adorer le Seigneur. Devant sa beauté, devant son œuvre. C'est pour ça qu'on dit aux nouveaux qui viennent de venir au Seigneur, commencez à lire l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils découvrent qui est Jésus. Et ils vont tomber en amour avec Jésus-Christ. On regarde ses œuvres, on regarde qui il est, sa patience, parfaite patience, sa joie, sa compassion pour les hommes, pour ceux qui souffrent. Passer par-dessus les préjugés. Il ne se laissait pas impressionner par les jugements et les critiques, mais il nous aimait. Et regardez comment ça nous change, tout ça. Regardez la Samaritaine, cette femme qui avait beaucoup souffert, qui était réservée, qui était timide, tout d'un coup, ouf! Tout d'un coup, elle part à courir, elle va voir les gens du village, puis elle leur témoigne de Jésus, elle parle de Jésus-Christ, elle emmène une gang au Seigneur. Mon ami, c'est une femme complètement transformée. Et c'est ce qui arrive. À mesure qu'elle découvrait la beauté et la grandeur de Jésus-Christ, et qu'elle était en admiration devant Jésus, sa vie a commencé à être transformée. Maintenant, peut-être ça fait des années que tu es dans le Seigneur et là, tu es en train peut-être de te refroidir. Tu perds un peu cette passion. C'est pas compliqué. Tu as besoin de revenir aux Écritures. Adorer Dieu. Adore Dieu. Comme ce commandement de l'ange à Jean dans l'Apocalypse. Adore Dieu. Adore Dieu. Expose-toi aux Écritures. expose-toi à la révélation de Dieu. Tu vas voir comment ton cœur va tranquillement déborder de cette joie. Ça va avoir un impact sur toi, sur ton obéissance, ta façon, sur ton humeur. Et ce matin, ce qu'on veut faire, on veut vraiment célébrer cela avec la Sainte Cène. On veut se rappeler ce que Dieu a fait en envoyant son Fils. Cette marque, cette preuve d'amour. Alors, si vous êtes né nouveau, baptisé par immersion, je vous encourage à participer avec nous ce matin, à prendre part à ce repas et à nous rappeler cette belle preuve d'amour de Dieu.